Maintenant, pour ce qui est de la vaccination, au moins hier, le ministre nous a dit que si les choses se déroulent comme prévu, la vaccination, là, sans restriction, va commencer à la fin du mois de mai. Et donc, la machine va être en mesure de vacciner beaucoup, parce qu'il y a encore plein de places qui sont disponibles. Et là, vous avez le AstraZeneca, le Canada va déterminer, puis les santé publique, est-ce qu'on continue avec la priorisation pour les 55 ans et plus? Est-ce qu'on pourrait le donner à des courbes, des secteurs de la population plus jeunes? Le Danemark a décidé de le tirer, mais Santé Canada ne va pas du tout dans cette direction-là. Donc, le AstraZeneca va continuer d'être offert. Et là, la compagnie dit, écoutez, on l'a testé sur le terrain. On n'est pas juste dans des essais cliniques, là, en Grande-Bretagne. Et on a peu de cas de gens qui ont fait des cailloux. Et on a une augmentation du degré d'efficacité. Entre-temps, le président de Pfizer parle maintenant d'une troisième dose. Donc, au début, la première. On sait qu'au Québec, on étire le délai pour la deuxième. Il a dit, bien, probablement qu'on va offrir une troisième dose. L'hypothèse, je le cite, vraisemblable, est qu'une troisième dose sera probablement nécessaire entre 6 mois et 12 mois. Et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année. Mais tout cela doit être confirmé. Je fais entendre le Dr Weiss qui, la semaine dernière, parlait déjà de cette troisième dose.
Il va falloir donner une troisième dose quelque part l'an prochain, possiblement, à un bon nombre de travailleurs de la santé qui auraient attendu au moins 4 mois entre les deux doses et probablement à d'autres groupes dans la population. Même pour les personnes âgées, 2 doses de vaccin bien administrées ont quasiment le même effet que chez les plus jeunes. Ce qu'on ne sait pas, c'est la protection à long terme. Est-ce que dans 1 an, ces gens-là auront la même protection si vous êtes une infirmière de 25 ans, si vous êtes une madame ou un monsieur en CHSLD de 90 ans et que vous avez reçu vos 2 doses, est-ce que vous allez avoir la même protection dans 1 an, 1 an et demi? On ne sait pas.
Alors, ce sont des hypothèses pour l'instant. Maintenant, on va parler de cette poursuite intentée par Patricia Tulane contre Gilbert Rozon pour une agression sexuelle qu'elle aurait subie en 1994. Poursuite au civil, c'est important, là, de 1,6 million. J'en parle avec Maître Sophie Gagnon, qui est directrice générale de Juripop. Maître Gagnon, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Le premier principe est important d'établir clairement, là, entre un procès au criminel et un procès au civil, là, c'est pas la même règle de droit qui est en vigueur.
Non, on parle vraiment d'un monde de différence. Ce sont 2 systèmes différents qui poursuivent des objectifs différents. En matière criminelle, c'est l'État qui cherche à réprimer, à sanctionner, à dénoncer des crimes violents et des comportements qui portent atteinte aux valeurs canadiennes, alors que le système de justice civile, ben, c'est la justice privée entre 2 personnes. Puis là, ce qu'on va rechercher, c'est une compensation en argent, en réparation d'un tort qu'on a subi. Alors voilà pourquoi Mme Tulane, là, désormais, cherche réclame une somme d'argent contre M. Rozon.
Expliquez-nous une chose, parce qu'il y a eu le groupe Les Courageuses qui a tenté de faire un recours collectif. Bon, et c'est allé jusqu'au sommet de la pyramide, là, et finalement, elles n'ont pas pu le faire. Les juges ont dit qu'il y a d'autres moyens de revendiquer.
Alors, une action collective, c'est un véhicule procédural. Donc, c'est une procédure qui est mise à la disposition de personnes qui ont subi un tort similaire. Donc, elles peuvent se regrouper ensemble pour simplifier, si vous voulez, leur accès à la justice, pour faire valoir leurs droits contre un individu ou une société. Puis dans cette affaire-là, la Cour d'appel a rendu une décision qui était strictement procédurale. Là, ce qu'elle expliquait, c'était qu'elle ne se prononçait pas sur la validité des affirmations, des allégations que les courageuses faisaient contre M. Rozon, mais que l'action collective n'était pas le véhicule procédural approprié. Donc, à l'époque, là, nous, on a rappelé que ce n'était pas un revers de la justice, mais tout simplement une décision procédurale et que les courageuses pourraient faire valoir leurs droits individuellement. C'est ce que Mme Tulane a décidé de faire hier et elle pourrait ne pas être la seule. M. Rozon pourrait faire l'objet de poursuites individuelles là, supplémentaires dans le futur.
OK. Et là, ça va être d'établir donc la preuve. C'est quoi? C'est la comme je l'avais dit un peu tantôt, là, la prépondérance de preuves. Il faut que Mme Tulane arrive avec ses preuves et Rozon va contre-attaquer, évidemment, c'est sûr.
Oui, donc on a beaucoup parlé là en lien avec les violences sexuelles, la fameuse présomption d'innocence, du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Ces concepts-là sont réservés au système criminel et non pas d'équivalent en matière civile, où là, comme vous le dites, on parle de prépondérance des probabilités. Alors, Mme Tulane va d'une part devoir établir qu'elle a subi une agression sexuelle de M. Rozon et d'autre part qu'elle en a subi des conséquences, donc qui lui vaudront des dommages. Et M. Rozon devra s'en défendre. Une autre différence intéressante, c'est qu'en matière criminelle, les accusés ont droit au silence. Alors, M. Rozon n'aurait pas pu être contraint à témoigner, à s'auto-incriminer. Alors que là, ben, dans les prochains mois, une des premières étapes de la procédure civile, ce sont les interrogatoires au préalable. Alors avant même le procès, les avocats de Mme Tulane vont avoir l'opportunité d'interroger M. Rozon. Alors, ce qu'on a vu là en matière criminelle, M. Rozon est arrivé au procès, a raconté une histoire qui a pris tout le monde par surprise, ne pourrait pas se reproduire en matière civile. Les avocats de part et d'autre vont pouvoir interroger la partie adverse. Et donc, les choses vont se dérouler autrement là, pour Mme Tulane en matière civile.
OK. C'est une poursuite là, de 1,6 million. Selon ce que vous savez avec votre expérience, là, les dommages accordés par le tribunal dans des cas qui peuvent se comparer, on parle de quel montant d'argent habituellement?
Je vous dirais que ça varie. Ben, premièrement, c'est assez rare là, des poursuites civiles en matière d'agression sexuelle parce qu'il faut payer son propre avocat, donc c'est pas à la portée de tous et toutes. Mais ça varie. Pourquoi? Parce que la justice civile vise à compenser les dommages qu'une personne a subis, puis les dommages peuvent découler d'une agression sexuelle vont changer d'une personne à une autre. Là, Mme Tulane allègue, entre autres, là, qu'elle a dû séparer de son conjoint, qu'elle a vraiment été blessée pendant toute sa vie, pendant toutes des décennies. Pas tout le monde là, n'aurait subi les mêmes dommages. Et en plus, ce qu'on peut réclamer en matière civile, ce sont ce qu'on appelle des dommages punitifs. Alors, des dommages punitifs, ben, ça ne vise pas à compenser, à réparer, mais vraiment davantage à punir une personne qui aurait commis une atteinte intentionnelle à nos droits. Et puis, le montant des dommages punitifs varie, entre autres, là, en fonction des moyens financiers du défendeur. Alors, vous comprendrez qu'en poursuivant M. Rozon, qui a les poches assez profondes, ben, on est en mesure de réclamer une somme d'argent vraiment grandement supérieure à celle qu'on réclamerait à un quidam, même pour des faits comparables. Alors, bref, pour répondre à votre question, c'est difficile de se fier au précédent. Il va vraiment falloir que ce soit accordé en fonction de ce que Mme Tulane pourra établir.
Merci beaucoup, Maître Gagnon. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Maître Sophie Gagnon est directrice générale de Jury Pop. Marc est là, c'est vendredi. Est-ce que les gens sont restés en télétravail ou ça se déplace un peu plus?
Général.